Voici Secret de Loge, épisode 30. Si tu ne le savais pas, le 16 avril prochain aura lieu la troisième édition du Congrès vocal, mais cette fois-ci en présence à Drummondville. Une journée complète à découvrir toutes les possibilités de ta voix dans le plaisir et l'exploration. Des sujets variés comme l'impro jazz, l'opéra, le chant conscient, la composition de chansons et la puissance vocale, tout ce qu'un seul prof de chant pourra jamais t'enseigner. On chante de la douche à la scène. Ça s'adresse autant aux amateurs qu'aux professionnels du domaine pour y chercher des tonnes d'outils pour ton instrument qui est la voix. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Cette semaine, je te présente une autre de mes conférencières, Élisée Daniel, que j'ai croisée dans certains groupes de chant, toujours dans les réseaux sociaux. C'est une coach vocale tellement passionnée par l'opéra. J'en reviens pas, elle peut dévorer un opéra par semaine en apprenant tous les rôles. J'ai jamais vu ça. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, quand j'aime pas quelque chose, j'essaye d'y goûter de plein de façons différentes pour être sûre que je vais finir par aimer ça. Jusqu'à temps que j'aime ça, puis ça marche, je finis toujours par aimer ça. Ben, je me suis dit que ça serait la même chose avec l'opéra. J'ai jamais vraiment trippé là-dessus, mais je me suis dit que j'allais trouver la personne qui allait me faire aimer ça. Puis Élisée Daniel est vraiment la personne parfaite pour ça parce qu'elle est passionnée, c'est hallucinant. Puis, c'est aussi pour ça que je l'ai invitée au congrès. Je me suis dit, je dois pas être la seule qui a de la misère avec l'opéra. Donc, Élisée, elle va vous faire vivre toutes sortes d'affaires. Puis déjà, juste dans l'entrevue, tu vas voir, tu vas tellement avoir hâte de venir au congrès juste pour ça. Je te laisse la découvrir. Le podcast Secret de Loge, c'est l'endroit où tous ceux qui font de la musique se retrouvent pour apprendre, s'inspirer, s'éduquer et se faire challenger sur leur oreille musicale. À travers ce podcast, tu retrouveras du contenu de haut niveau et des discussions sur différents sujets de la musique, comme des trucs du métier, de la théorie pop-lap, des astuces d'organisation, etc. Tu pourras aussi apprendre des anecdotes croustillantes sur les dessous du monde du spectacle avec mes invités. Je vais te partager des stratégies puissantes basées sur mes propres expériences qui m'ont permis d'être active professionnellement en musique depuis plus de 30 ans. Alors, si tu désires améliorer tes compétences musicales et découvrir des astuces pratiques, tu es à la bonne place. Tu trouveras ici tout ce dont tu as besoin pour exceller dans ta vie musicale. Salut tout le monde! Mon invité d'aujourd'hui, c'est une chanteuse que j'ai rencontrée par hasard dans des groupes de chant ou des groupes d'entrepreneuriat en ligne. Je me souviens plus trop exactement. Mais j'ai eu le bonheur d'avoir une belle rencontre en mars dernier avec elle. Puis j'avais vraiment trippé sur sa compétence, son ouverture, puis son assurance aussi. Fait que je vous présente une de mes conférencières au Congrès vocal, Élisée Daniel. Salut Élisée!
Salut, Élise, ça marche bien tout ça?
Yes! Ça marche, hein? C'est fou, hein? Donc, moi, je t'ai fait une petite présentation, mais peut-être que pour ceux qui ne savent pas d'où tu sors, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait comme projet où on pourrait t'avoir croisé ou où on t'a vu?
Ouais. Alors, moi, j'ai chanté beaucoup comme plein de gens dans ma salle de bain, mais aussi dans ma chambre. Étant enfant, je chantais à tue-tête du soir au matin, du matin au soir. Et j'ai eu la chance et le bonheur qu'on ne me dise jamais de me la fermer. Donc, j'ai pas développé de frustration par rapport à ça. J'ai fait un gros projet quand je suis arrivée ici à Montréal. Ça fait 15 ans que je me suis installée avec ma famille et ça s'appelait le chant du cœur. Et le chant du cœur, c'était de travailler la voix avec des personnes qui avaient reçu un diagnostic en santé mentale. Donc, des personnes qui étaient fort médicamentées, des personnes qui étaient perdues dans l'existence. Et on a eu ce projet pendant 6 ans. Et chaque année, on avait une cohorte de 15 adultes qui nous étaient référés, donc avec des problématiques allant de la paranoïa au borderline, maniaco-dépressif, schizophrénie, etc. Wow. Et puis, ça a été un projet extraordinaire avec la possibilité d'enregistrer un album chaque année avec les participants et un album dans les règles de l'art avec ingénieur du son, micro pour chacun, booth d'enregistrement, la classe, la super classe. Wow. J'ai adoré travailler avec ces personnes-là. Il y en a tellement qui ont continué à chanter, d'autres qui se sont mariés, d'autres qui ont quitté le milieu toxique dans lequel ils vivaient, des personnes qui ont trouvé un emploi, une dame qui avait 8 enfants, 25 électrochocs dans un mois, qui a acheté sa petite Vespa et qui vient au centre-ville de Montréal pour garder une galerie d'art où elle expose elle-même ses propres arts. Des miracles. Le chant, la musique font des miracles dans la vie. Donc ça, c'est un de mes plus gros projets que j'ai mené ici. Après, j'ai chanté dans les compagnies d'opéra de région. Et puis, très récemment avec l'OSM, puisque je suis devenue membre de l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, juste avant Covid. Et
Ah.
puis, du coup, on a repris cet automne. Et puis, ça, c'est vraiment une belle expérience, puisque la salle Wilfrid Pelletier, la salle de l'OSM, tout ce qui est à la Place des Arts, c'est tellement beau. Mais c'est beau, faut le voir dans tous les sens, à la fois en spectateur, en artiste. C'est prodigieux, c'est. Ouais, c'est le monde de la beauté. Puis ça m'émeut toujours, cette tout temps de beauté sur Terre, vraiment. Donc ça, c'est ça. Et puis on peut m'écouter dans le rôle de Cathy Bree dans Donjons et Dragons, parce que de temps en temps, je prête ma voix pour les jeux vidéo.
C'est
Et
bien
ça,
cool
c'est un projet, donc
ça.
avec Wizard of the Coast. Et puis j'ai adoré, adoré travailler avec une compagnie montréalaise qui s'appelle Vibe Avenue, qui fait de la musique des jeux vidéo. Et puis là, je me déchaîne, je suis passionnée, j'adore,
C'est
j'adore.
génial ça. Il va falloir que tu nous donnes les liens pour qu'on va mettre dans la
Absolument.
description de l'épisode là pour tout ça. Ça
Ouais.
va être super intéressant.
Génial.
Veux-tu me parler de mini-toi quand tu étais petite? Est-ce que tu pensais, ben, t'en as parlé un petit peu, mais fait que tu chantais déjà quand tu étais petite, là.
Ben moi, j'ai toujours chanté parce que j'ai toujours pensé que c'était naturel. Jusqu'au jour où j'ai appris que ça s'apprenait. Oups, ça a été un premier choc des cultures, un choc même bouleversant dans mon cœur. Mini moi, si on peut se dire, on se dit toute la vérité ici,
Bien
c'est
sûr, mais
possible.
ça reste entre toi et mes
Ouais,
auditeurs.
super. Mini moi voulait être femme de riche.
Oh
Quand on me demandait, j'avais 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je voyais pas d'autre chose que de devenir femme de riche parce que je voyais que c'était la seule possibilité pour moi de n'avoir aucun tracas matériel et d'être simplement moi. Parce que, avant tout, je voulais être moi.
Ah, c'est beau.
Et ça prenait en fait que tout le reste autour de moi fonctionne de soi-même. Donc, femme de riche, c'était un terme générique. Je voyais même pas un homme, je voyais pas un compagnon, mais je voyais femme de riche. Pour moi, c'était
C'est donc
l'aboutissement.
bien
Ouais,
cute.
donc, les gens, des fois, paraissaient outrés quand je disais ça, mais j'étais tellement sincère. Et tellement candide en disant ça, et je ne savais pas pourquoi je disais ça. Donc, mais c'était ça, mon métier de rêve. Et puis, à l'âge de 8 ans, je gardais des petits cousins, donc il y avait 2, 3 ans, et puis, comme ça se fait aux Antilles, il y a 8, 10 ans, on est des petites mamans quand même. Et ce soir-là, la télévision, quand tous les bébés dormaient, j'ai machinalement ouvert le poste de télévision de chez mon oncle, et il y avait des gens habillés en rouge et noir. Ça bougeait. Ça dansait et il y avait du son de la voix. Waouh, au lieu d'aller me coucher, il était 1 h du matin, 2 h du matin. Moi, la babysitter, je suis là à regarder pour comprendre longtemps après que c'était un opéra de Strauss, donc de l'opéra bouffe, de l'opéra style vie parisienne, etc., French Cancan. Et puis, ça s'est resté dans mon cœur. Et à l'âge de 11 ans, quand mon grand frère m'a offert mon magnéto parce qu'il me disait, tu chantes tellement, enregistre-toi. J'avais le truc horizontal où on tapait, là, record et play, là, en même temps. Et des cassettes qui tournent dans ce sens-là avec des bouts de tissu à l'intérieur enroulés.
Oui.
J'enregistrais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est dans la même année où mon grand frère m'a offert un coffret de 3 vinyles d'opéra et c'était Jessie Norman, chanteuse d'opéra noire américaine. Et là, je me suis dit, je vais devenir Jessie Norman. Je
Wow.
ne savais pas l'ampleur du travail que ça demanderait. Je ne savais même pas qu'existaient des maisons d'opéra. Mais le nouveau métier en vogue à ce moment-là, c'est devenir Jessie Norman. Voilà.
Wow, super bon goal.
Donc c'est ça, et puis à l'âge de 16 ans, on m'a diagnostiqué entre guillemets une voix, c'était une soirée d'anniversaire, et puis j'ai écouté ça, et puis c'est sorti par l'oreille, parce que je n'étais pas dans un milieu où les gens chantaient en professionnel, je ne comprenais pas qu'on travaillait la voix, etc. Puis 10 ans plus tard, j'ai frappé à la porte d'un conservatoire, parce qu'il y avait une annonce, audition de chanteur. C'était le lundi, et l'audition c'était le mercredi. Donc je suis entrée, j'ai dit je vais chanter, ils m'ont dit ok, mettez votre nom là. Voilà. Et j'ai mis mon nom et le mercredi, à l'heure dite, je suis arrivée avec une chanson justement que j'avais entendue par Jesse Norman qui s'appelle The Holy City. Et j'avais tellement peur. J'ai trouvé une partition que j'ai emmenée enroulée comme un papyrus. Et puis ça, depuis toujours, j'ai toujours présenté au diable, aux grandes dames des pianistes, mes partitions enroulées parce que je prends rien d'autre. Pas de sac à main, pas de téléphone, j'ai juste ma partition en main. Je suis imprégnée de ça quand je vais aux auditions. Donc je donne mon papyrus qu'on déroule, qu'on plie dans tous les sens. Et j'ai tellement peur qu'au lieu de chanter une chanson qui dure 3 minutes 25, j'entends dans ma tête quelque chose comme « Je vais le faire comme ça avec le son, ça fait… » Et ça dure moins d'une minute dans ma tête. Tellement mon cœur bat dans mes oreilles que mon pouls, mes 120 pouls du corps… veulent être crachés par ma bouche, c'est l'enfer. Et j'entends ce son qui va trop vite. Pourtant, j'entends que je suis pas en décalage du pianiste. Je ne comprends pas. Et je sors de cette pièce. Et là, un garçon qui me dit, My God, t'as toute une voix, toi. Je lui dis, ah ouais? Je lui dis, tu fais quoi, toi? Il me dit, je vais faire l'audition. Et je suis restée entre la double porte pour l'écouter. Et ça a été un de mes premiers partenaires de duo d'opéra.
Wow, c'est
Et c'est un grand chanteur de jazz maintenant, c'est Fred Robin Lessing. Et puis lui, ça a été un été, il a mangé tous les standards de jazz et il est devenu chanteur de jazz. C'était sa vraie passion. Mais c'est ça, moi, ma première expérience du monde de la voix avec une idée professionnelle. Mais ça n'allait pas se passer comme je voulais, puisque 6 mois après, je me suis fait débarquer du conservatoire pour insubordination. Et. Et puis 6 mois après, donc j'ai eu une mise à pied, on m'a rappelé en me disant, est-ce que tu t'es calmé et que tu ne mettras pas tes professeurs en difficulté? Parce qu'il faut savoir que je ne chantais pas, mais j'allais énormément à l'opéra parce que depuis l'âge de 11 ans, je n'écoutais que ça. Et je prenais énormément de notes, je me faisais inviter à toutes les masterclass de toutes les grandes divas de ce monde. Mais moi-même, je ne chantais pas. Je ne chantais pas comme on chante au conservatoire, puisque pour moi, ça ne s'apprenait pas. Donc, mon premier conflit, là, au conservatoire, j'ai pu mesurer à quel point ça me dérangeait, à la fois qu'on me donne des œuvres que je qualifiais de trop difficiles pour ma voix, des œuvres que je ne pouvais pas déchiffrer parce que j'avais aucun bagage musical, mais comme je rentrais en musique et que j'avais 26 ans, on a pensé que moi, je venais d'un milieu musical et ce n'était pas le cas. Alors, ça a été un gros, des années très, très, très difficiles où j'ai détesté le solfège, la musique, les profs qui enseignaient.
Il y en a plein qui ont détesté.
Voilà,
Moi,
c'est ça,
je suis
juste.
la seule bizarre qui aime
Ah
ça.
oui, toi, t'es vraiment. Non, j'en connais une autre, j'en connais une autre. C'est une machine à déchiffrer. Et d'ailleurs, elle enregistre des albums et en musique classique contemporaine, les trucs où on se dit, mais comment, si tu n'entends pas le son, comment tu peux chanter? Donc, il y en a des ovnis de ton genre, des osni, objets sonores non identifiés.
J'aime ça, je garde ça.
Voilà, donc mon parcours, c'est ça, c'est beaucoup de chaos dans un cœur qui sait que je vais chanter, dans une âme qui chante, dans un vrai bonheur par rapport aux voix, une passion. Mais je suis complètement dingue des voix, j'entends un opéra à la radio. Radio France à l'époque, l'équivalent de notre Radio-Canada. Je descends à la librairie musicale, j'achète l'opéra au complet, j'apprends tous les rôles dans la même journée.
Oh my
C'est ce
God.
genre de délire-là. Donc j'étais capable de manger un opéra par semaine en connaissant les voix de tout le monde, hommes, femmes. C'était malade, quoi. C'était
Oui.
vraiment dingue, vraiment.
J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi passionné. Ça, c'est vraiment cool. OK.
Ouais.
Veux-tu, est-ce que suite à ça, as-tu eu d'autres formations ou t'as appris finalement tout par toi-même?
Non, alors je suis rentrée longtemps, longtemps après. En fait, je suis rentrée à la Sorbonne pour aller chercher mes matières, donc en musicologie, les matières qui ne sont pas enseignées au conservatoire. C'est très coupé en France, hein, pour l'enseignement de la musique. Donc, j'allais à droite, à gauche dans des petits conservatoires pour un prof de solfège, pour un prof de lecture. C'était vraiment très morcelé, mon histoire. Et puis, je rentre à la Sorbonne. Ça, c'est un nouveau monde parce qu'on parle de culture musicale, de l'histoire de la musique vocale, de l'histoire de la musique des instruments. Complètement passionnée, je tombe en amour avec Jean-Sébastien Bach, je tombe en amour avec Mozart, et puis surtout, je me fais repérer par un homme qui va devenir le parrain de ma fille, qui me dit, j'adore ta voix, et je lui dis, c'est pas possible parce qu'on est 180 chanteurs on stage, et puis il me dit, j'adore ta voix, et je veux te faire travailler. Donc j'y vais un samedi matin chez lui, et puis il me dit, on va faire de la lecture à vue, le meilleur moyen, c'est que je joue pour toi et tu chantes tout ce que tu entends, tout ce que tu vois. Et moi, je trouve ça louche, hein. Je viens d'un milieu où on sait qu'il faut tout payer, hein. J'ai beaucoup de limitations intérieures. Et puis, le samedi d'après, ben, il me réveille en me disant, mais je t'ai dit que j'adorais ta voix, je veux te faire travailler. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce mec? A priori, je ne suis pas son style, ce n'est pas mon style. Qu'est-ce qui se rame là? Et puis, je dis, mais je n'ai pas d'argent pour payer. Il me dit, est-ce que je t'ai parlé d'argent? Et c'est le premier garçon avec lequel je vais faire mes premiers concerts en château, donc des concerts privés. Et c'est de la musique du 18e siècle, les arias antiquées. Donc, de la musique vraiment baroque avec les ornementations, et puis les robes qu'il faut, et puis les machins, et la perruque, et la poudre. Et lui, il m'a ouvert le monde de la musique parce que. Et lui, il est érudit, par exemple, il faisait deux doctorats en même temps en musicologie, c'est mon machine là, de lecture, mais petit, il avait fait du clavecin, de l'orgue, du piano, et il avait fait tout le clavier bien tempéré de Bach. Donc, ce mec-là, il m'apportait la musique sur un plateau d'argent, vraiment, et ça a changé tout mon rapport. Donc, tant bien que mal, j'allais chercher le pratique au conservatoire, le théorique à la Sorbonne. Puis je me suis faite comme ça jusqu'au jour où une prof m'a dit, il faut que tu deviennes prof de chant. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Je lui ai dit, OK, mais comment? Elle me dit, parce que tu n'entends pas la voix comme on l'entend en temps normal. Ça veut dire quoi? Elle me dit, tu n'entends pas la voix, tu sens la voix. Et il faut que tu penses là-dedans, tu seras un très bon prof de chant. Et quelques temps après, elle est partie en tournée elle-même et elle m'a laissé sa classe de chant 3 semaines. Quand elle est revenue, les avis étaient unanimes. Ils m'ont dit que ça a été extraordinaire, et la pédagogie, et l'ambiance, et de chercher sur la musique, et de s'asseoir à la table, de faire un travail minutieux, d'avoir des images parlantes et tout ça. Et puis elle m'a dit, je te l'avais dit, maintenant tu vas foncer. Donc je suis entrée en formation de prof, à spécialité chant. Et là, c'était vraiment intéressant, puisqu'en France, ça se fait sous forme de concours. Donc, on part à 500, ça dure plusieurs années, et on travaille à la fois analyse musicale, harmonie, tatata, et on se mesure à des gens qui veulent peut-être devenir chanteurs, mais qui sont déjà à l'orchestre, premier violon de l'orchestre, tagada, tagada, tagada. Et en 2009, le 18 mars, le jour de mon anniversaire, le téléphone sonne en disant, vous êtes dans les 5 premières.
Wow!
Voilà. Et 3 semaines après, je reçois mon visa pour le Canada. J'ai un diplôme d'État, mais j'enseignais déjà au conservatoire, mais là, ça me donnait la sécurité de l'emploi, le salaire de rêve, parce que la musique est quand même très aidée en France, le Conservatoire national de Paris, une classe de chant qui existait, une classe d'opéra qui existait depuis 5 ans, les propositions tombent et moi, j'ai mon visa en main. Et j'ai un choix à faire. Et les gens, ils me disent, t'es dingue, t'as bossé pour ça, t'as ta reconnaissance parmi les pairs, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, je regarde, mes enfants sont petits, 8 ans, 4 ans, est-ce que c'est le moment? Et puis on a choisi de venir ici.
Ah,
Voilà.
oh, c'est cool.
Donc, j'ai enseigné beaucoup en chant quand j'étais à Paris, mais. Le super niveau que j'attendais grâce à ce diplôme, voilà, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser ce diplôme directement. Mais c'est pas grave. C'est sûr qu'ici, j'ai pas réussi à faire mes équivalences parce que je suis un produit mi-universitaire, mi-conservatoire. Donc, il aurait fallu que je refasse un baccalauréat, un truc. Et puis, là, on comprend que je chantais énormément en France. Donc, retourner à l'école, c'était pas ma priorité. Donc, c'est ça. Donc, mon parcours, c'est vraiment ça. Donc j'ai des gens qui m'ont marqué, donc cette femme Annie Béatrice Lepré qui m'avait dit fonce, et puis il y a quelques années jusqu'à sa mort, c'était Gabrielle Lavigne ici que j'ai mis du temps à contacter parce que je ne savais pas, moi j'enseignais en santé mentale et puis j'avais pas encore pris la décision vraiment de rechanter pour moi, puis ça a été une belle amitié parce que j'ai un autre métier, je suis réflexologue, je m'occupe des pieds des gens et puis j'allais J'allais soigner ses pieds, puis elle m'aidait à devenir une meilleure pédagogue puisque c'était ma demande. Puis ça a été vraiment extraordinaire jusqu'à la fin, jusqu'au bout de son cheminement sur Terre. C'est une femme qui a chanté énormément, mais énormément au Québec. Et elle a même remplacé Jessie Norman au pied levé à l'Opéra de
Wow.
Montréal.
Ben
Donc
voyons.
c'était cette pointure-là, quoi. Et du coup, c'était fou parce que j'avais Jessie Norman et j'avais Gabrielle Lavigne. Et pour moi, mon monde était le plus beau, le plus
Ben oui,
parfait.
là, comblé, là,
Ouais,
comblé solidement.
trop plus. Ouais,
Moi,
ouais.
c'est quoi ta force, tu crois? Ben, en tout cas, t'en as nommé une, c'est que tu ressens les voix des gens.
Ouais.
Puis est-ce que tu as cette force-là ou d'autres forces selon toi?
Ouais, le fait de ressentir les voix, c'est que il suffit que je cligne des yeux et puis j'ai énormément d'informations en entendant une voix, mais aussi des informations médicales, des informations de santé, des informations de déséquilibre, plus organique quelquefois. Et c'est comme si, quand je suis dans la gorge de quelqu'un, là, je reçois toute l'information de son vécu, mais dans ma musculature, dans ma chair. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très sensoriel, là, qui est très... voilà, donc je sais toujours, c'est comme si je pouvais te dire, tiens, la corde vocale à gauche, elle tire beaucoup plus. Tiens, la corde vocale à droite est beaucoup plus distendue, elle est plus lourde. C'est des informations que je ressens comme ça, en
Wow,
fait, dans la chair plus. Ouais,
c'est
ouais.
vraiment
Ouais.
fascinant et rare, mais
Ouais. Ouais,
vraiment.
je sais, mais c'est cette prof qui m'avait dit, c'est marrant quand tu donnes des réponses ou tu expliques quelque chose, c'est parce que tu n'entends pas de la façon où on entend d'habitude. Donc, j'ai ma façon sans doute singulière, du coup, d'appréhender une voix, de la comprendre et puis de l'aider à se développer, de se délier quand il y a besoin. Ouais.
Oh, je sens que les auditeurs actuellement, ils doivent se dire, oh, elle, je vais la contacter.
Ouais, ben tant mieux, j'espère. Et puis, tu
Oui.
vois, dans la pédagogie, moi, j'ai travaillé énormément, énormément sur moi, sur mes blessures, sur pourquoi je ne suis pas allée tout droit, par exemple, faire chanteuse à New York, pourquoi j'ai mis tant de temps à essayer de, pourquoi si. Donc, ça m'a donné vraiment énormément de vécu, j'ai envie de te dire, et de compréhension avec empathie, avec un véritable amour. Je travaille en partant toujours de la place de mon cœur. C'est l'endroit où il y a le plus d'amour en moi. Et je me suis interdit tout jugement. J'ai une capacité, c'est de faire les grandes voix. Vraiment ça, c'est vraiment ma puissance. Et dans ma tête, toutes les voix sont plus longues que ce qu'elles pensent. Mais je me dis, j'entends 2 octaves quand quelqu'un arrive et puis je me dis, non, en réalité, il y en a 3. Et avec le travail, je vais lui montrer qu'il y en a vraiment 3. Moi, dans ma tête, les voix sont extensibles jusqu'à l'infini. Donc, je ne me limite pas à ce que je vais entendre, qui est comme ça dans un cadre, quand la personne arrive avec ses timidités et tout. C'est, je suis tout le temps dans des lendemains qui chantent. Alors, mon premier cours, c'est sentir ce qui est grand à l'intérieur. C'est pour ça que j'aime l'opéra. C'est pour ça que je voulais en parler à ton congrès vocal, Élise, parce que c'est cette espèce de démesure qu'on va chercher dans la poitrine, dans notre cœur, dans notre ventre. Tu sais, quand les organes, au lieu d'être adhérés, collés, là, ils commencent à être dans une expansion. C'est cette espèce de puissance que j'adore dans l'opéra. J'adore voir chanter cette bouche qui est immense. Tu pourrais te plonger dans les poumons. J'adore ça. C'est vraiment ça. Donc, dans ma pédagogie, c'est vraiment ça. J'aime que les gens, ils sentent à quel point ils sont puissants, à quel point ils sont beaux. Avant tout, je veux que tu te sentes meilleur avec moi. Je veux que tu sentes à quel point tu es génial. Je veux que tu sentes à quel point tu n'as pas besoin de douter, que tu es soutenue, que tu es parfaite, que tu es géniale. Moi, c'est vraiment ça que je veux passer dans le travail de la voix.
Wow, on veut tout t'avoir comme prof.
J'adore ça. J'adore ce que je fais.
Oh, wow. Moi, je vais vous livrer un secret, comme ça va peut-être te dégêner, mais moi, qu'est-ce que j'aurais aimé mieux savoir faire mieux en musique? Ce que j'aimerais mieux faire mieux, c'est j'aimerais ça jouer d'un instrument avant. Je le fais
Oh,
pas. Ça, c'est quelque chose que je me dis, ah, j'ai essayé, je le fais pas, puis ta. Fait que c'est ça. Puis toi, y a-t-il quelque chose que t'aimerais faire mieux ou t'aimerais
wow!
faire, puis que tu fais pas?
Ben, Qu'est-ce que j'aurais aimé faire mieux? J'aurais aimé lever le voile sur. Tu sais, j'ai développé des petites peurs par rapport à la lecture à vue. Et je me suis même interdite certaines auditions où il y avait écrit audition avec lecture à vue.
Oh.
Moi, j'y suis allée vraiment en me disant, je sais comment je suis sur scène, je sais ce que je vaux, et puis je vais m'offrir. OK. Hein, ça va être un caca beurk, et puis je serai tellement embrouillée que je vais voir les notes là, je vais dire l'autre, etc. Parce que je savais le schéma que j'avais développé, sur lequel j'ai travaillé énormément. Puis la dernière fois, quand j'ai fait mon audition à l'OSM, je me suis dit ça passe ou ça casse. J'ai travaillé vraiment à redescendre dans ma paix intérieure en me disant, OK, il y a eu une époque où c'était le cauchemar, cette histoire-là. Là, tu y vas. Et puis c'est tout. Et puis de toute façon, à un moment donné, c'est pas après 40 ans, là, quand tu arrives à l'OSM, ta musique, tu la sais, là.
Tout à fait.
Même si ton audition n'était pas extraordinaire, tu l'as travaillé, tu arrives, tu es au point, le chef, il arrive, il met ça dans la boîte, c'est parfait, quoi. Il n'y a jamais de correction à ce niveau-là. Donc je me suis dit, ben c'est ça, s'ils aiment ma couleur vocale, ce que je suis comme chanteuse, comme artiste, eh ben ça passera. Et
Mais oui.
effectivement, j'ai eu des petits doutes, et puis il a rejoué en dessous, et puis j'ai repris mon calme, j'ai respiré, tout ça. Donc c'est ça, j'aurais.
Mais la lecture, c'est une partie, là, c'est une infime partie de l'artiste, là. Fait que c'est, ça
Je
fait
sais,
pas.
mais dans les auditions, ça sert à élaguer, là, tu sais, en audition classique, parce qu'ils vont te dire, oui, celle-là, si elle déchiffre si lentement, elle va nous faire perdre du temps, donc elle va nous faire perdre de l'argent, etc. Et ça, c'est sous-estimer la puissance d'un cerveau, parce que moi, quand je suis à mon piano, là, donne-moi n'importe quoi, moi, je travaille là, et puis j'ai pas besoin de tant de temps, parce que j'ai une excellente mémoire musicale, j'ai quand même des skills, mais. Ça, j'aurais voulu, et je vais le faire parce que je voudrais partir en paix quand je vais mourir sur Terre. Quand je vais penser à la lecture à vue, je vais me dire, OK, je ne suis pas Élise Béchard, mais dans mon cœur, dans mon cœur, c'est tellement en paix par rapport à ça et que j'aurais fait mon meilleur malgré tout.
Ben,
Voilà. Ouais.
exactement. Oh, t'es drôle. Fais rougir, tu me fais rire. Est-ce que tu veux parler de l'oreille musicale?
Wow. Ben écoute, l'oreille musicale, c'est quelque chose qui m'a toujours donné une vraie confiance, parce que là où mes yeux et mes oreilles ne s'accordaient pas forcément, je savais que mes oreilles entendaient. Donc
Exact.
j'avais une force et que je pouvais rentrer dans n'importe quel univers musical, harmonique, j'allais m'en sortir. Je m'en sors peut-être un peu moins bien quand c'est de la musique que certains chefs ont écrit pour moi dans leur univers super contemporain classique là.
Oh my God, oui, là.
Et tu travailles beaucoup tes lignes jusqu'au jour où tu arrives et tu as un orchestre, tu as une harpe avec des papiers aluminium dedans, tu as un mec qui jette des morceaux de gomme ballon sur les cordes du piano, ça fait bon. Et puis
Voyons.
là-dedans, toi, tu as un rythme, tu as une mélodie qui était là mais qui est plus là, enfin là quand même, ça c'est des épreuves pour l'oreille.
Non.
Mais j'ai fait des choses assez farfelues dans ce sens-là. Donc, je sais que pour moi, l'oreille est liée vraiment à ta façon d'appréhender le monde. Et ça, l'oreille m'a toujours sauvée. Toujours, 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 toujours. Mais il y a un laisser-aller. En fait, pour avoir accès à son oreille, il faut se laisser complètement aller. Il faut que la musique, elle nous rentre par tous les sens, par la peau, dans le sang, dans la lymphe. Et puis, je pense que c'est ça qui vient travailler dans notre oreille. Mais ça demande vraiment à lâcher prise au moment où on arrive avec des gens. Des fois, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils jouent, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête. On rentre là-dedans et puis c'est rentre dedans. Laisse-toi imprégner.
Exactement. Puis
Ouais.
justement, c'est bien parce que ton oreille, elle va tout le temps te sortir. En tout cas, peut-être sauf dans la musique contemporaine violente, là. Mais la musique, l'oreille, elle va toujours réussir à t'amener quelque part que ça sonne correct, là, quand même.
Ouais,
Ça, c'est
ouais.
fun pour ça.
Ah ouais, c'est ça, on est béni. L'oreille, c'est vraiment une bénédiction dans un corps humain, c'est extraordinaire.
Ouais.
Extra. Puis on le voit avec les enfants, on le voit avec même les gens qui disent oui, mais je peux pas chanter parce que j'ai pas d'oreille ou des trucs comme ça, et puis c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Ah ouais.
Hey, parle-nous donc de ton plus beau spectacle, la plus belle gig que tu as eue.
Ah ouais. Là, j'ai chanté, j'ai fait une série de concerts avec entre 90 et 120 personnes dans une petite salle parisienne qui s'appelait Vici d'Arte, comme le titre du son de la Madame Tosca quand elle dit « J'ai vécu d'art » dans Puccini, et puis pourquoi vous me harcelez comme ça, pourquoi vous voulez ma vertu, pourquoi vous voulez me dérespecter en tant que femme, c'est de toute beauté. Et ce café, donc ce café opéra s'appelait Vici d'Arte. J'ai fait une série de concerts et je me souviens encore maintenant qu'un des soirs, une des maquilleuses que j'avais rencontrées en tournée m'avait fait le bonheur de me dire, je suis entre deux shows de maquillage, mais je passerai te faire ton maquillage parce que je sais que ça te met dans... Voilà. Donc elle est passée dans ma petite loge, elle m'a fait ce maquillage. Puis ça a été le moment d'entrer sur scène. Et là, il s'est passé quelque chose que je retrouve après 10 jours de méditation et de silence intense, qui s'appelle une dissolution totale. Tu sais, c'est le moment où tu es dans le tout, mais tu es nulle part. C'est dans le moment où tu reçois tout, mais que tu ne fais rien. Le moment où tu entends tout, le moment où tu vois tout, c'est comme tous tes sens sont démultipliés. Et j'ai fait ce concert. Et je me souviens de chaque détail de sensation de mes pieds, de l'ouverture de ma bouche sur telle syllabe. C'était d'une précision incroyable, d'une présence. Et à la fin de ce spectacle, en rentrant dans ma loge, je me suis dit, oh, j'ai eu une hésitation dans mon cerveau entre le der et le das en allemand. Mais c'était 2 heures de spectacle. Et pendant les 2 heures, y compris la pause, j'étais dans cet espace-temps-là, tenu par les anges.
Oui, c'est
Vraiment, où tout est simple, tout est facile, la mémoire est extraordinaire, ton regard, ton contact avec les gens, ce qui te donne, c'est des moments qui sont assez rares
oui, vraiment.
pour que ça dure aussi longtemps dans le temps.
Aussi concentré, aussi
Ouais, concentré,
imprégné.
absolument. Et puis
Wow.
tu veux ma pire?
Oui, je veux ta pire gig. J'aime
Ma
ça. Ça,
pire.
c'est
J'ai un contrat avec
mon bout préféré.
un grand orchestre parisien pour chanter les Kindertotenlieder de Gustav Mahler. C'est les chants sur la mort des enfants. Donc c'est dark.
Ouais.
C'est vraiment. Mais j'adore ça! Mais j'adore ça! Mais alors l'orchestre est énorme, énorme, énorme. Et puis. Là, notre chef d'orchestre nous dit bon, on a été invité dans le cadre de tel et tel truc, événement, dans un centre de réhabilitation. Et dans ma tête, je me dis réhabilitation, je pense un centre avec des drogués, des gens qui sont un peu raplapla sur leur siège, mais réhabilitation physique. Donc des gens pas de bras, des gens pas de jambes, des gens. Des moignons, des gens tordus, handicapés, avec des gros pansements, des choses comme ça. Et la salle est pleine, je suis on stage. Et là, j'en vois un qui enlève sa prothèse, et puis et puis j'en vois un qui se gratte, qui reste de sous le bandeau de son oreille. Je me dis,
Oh my
oh
God.
mon Dieu, comment je vais faire? Et là, j'entends les premières notes et je sens que je vais vomir mon cœur. Et pendant tout ce que j'ai chanté, mon seul travail, c'était de faire que tout ce qui était dans mes intestins, et je mange très peu avant les concerts, tout ce qui était à la fin de mon tube digestif ne remonte pas. Ça a
My God.
été horrible. Je suis sortie de là, il y avait un petit drink après, j'ai disparu dans les jardins, je pense que j'étais de couleur verte.
Oh my God!
Ça a été le pire moment de ma vie. À
Ah.
me battre contre une sensation de... Mon corps était révulsé, puis je sais que je ne travaillerai pas avec des gens qui ont des morceaux en moi. Je le sais, là.
Ben c'est
Pourtant, je suis bonne à l'hôpital, je suis bonne à soigner les personnes âgées, mais tout ce qui est membre qui vient d'être coupé, qui a été écrabouillé, là, excusez-moi l'expression,
ben non,
les
je comprends.
auditeurs, ça a été ma pire gigue,
Oui, puis il y a
vraiment.
l'histoire qu'on peut s'imaginer qui vient avec tout ça, c'est ça.
Oh.
tellement
Ils
trouvé ça.
étaient tellement attentifs et puis je sentais qu'ils me regardaient, je sentais que tout le monde voulait venir me dire merci, bravo, après me faire des gros hugs. Et puis là, c'était non!
C'est
Et
normal.
j'ai absolument aucun mépris, mais là, c'était 250 personnes dans cet état. Ça a été une épreuve incroyable physiquement.
Ah oui,
Ouais.
ça... Oh mon
Ah
Dieu, puis là, tu te concentres pas sur tes tunes, tu te concentres sur jouer
ouais.
au
Ouais,
même.
c'est ça, sur mon corps. Et puis je me dis, heureusement, quand ton apprentissage est solide, t'es en pilotage automatique, parce que là, mon corps voulait vraiment, j'aurais pu faire un malaise et tout ça, c'était vraiment dramatique. J'ai vécu un drame.
Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a un saviez-vous, quelque chose qu'on ne sait pas de toi que tu pourrais nous annoncer ici, là, que juste nous, on pourrait savoir, qui a
Oh my
rapport ou
God.
pas avec la musique, là?
Oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Oh, c'est
Ça peut être un
intéressant.
passe-temps que tu as, ça peut être, je sais pas, un hobby qu'on ne sait pas. Sinon.
Je vais avouer que j'ai lu plus de livres d'aromathérapie, de phytothérapie que de livres qui parlent de musique et de
Ah
technique. Ouais, et même quand je faisais mes cours, je reçois 200 newsletters de santé au naturel et je vais les lire. Puis régulièrement, si j'ai le temps, je vais feuilleter un petit truc sur la voix. Bon, c'est pas vrai, j'ai lu beaucoup sur la voix, mais mon mari me faisait, il me dit, c'est fou hein, quand même que sous ton livre de musique et de solfège, il y a quand même un livre d'aromathérapie, il y a les 10 recettes pour ceci, pour cela. Ça a toujours été ça, c'est mon dada. Je fabrique, j'ai une petite ligne de produits de soins à base d'huiles essentielles. Puis j'espère un jour, là, dans mes projets à venir, pouvoir développer ça, notamment une petite gamme pour les chanteurs, pour les orateurs, les conférenciers.
Tellement.
Et j'aimerais vraiment la développer sur le marché. C'est vraiment sympa. Et puis ça me permettrait d'offrir quelque chose qui vient vraiment d'une passion. Là, je fabrique mes propres produits à la maison. J'ai toujours la main qui fait quelque chose.
Ben oui, mais c'est vraiment le fun à savoir. Puis oui, moi, on va être les premiers informés quand tu vas
Yeah.
jouer ça avec le chant, quoi. Ça va être.
Oui. Ah ouais, ça va être génial. Et puis je fais une crème merveilleuse que les gens adorent. C'est mon meilleur vendeur et mon déodorant, mon petit déodorant maison, là, soit en pot, soit en stick. Les gens, ils tripent. J'ai beaucoup de danseurs qui me l'achètent parce que c'est super efficace. Ouais, j'ai mis vraiment au point toutes mes recettes sur plusieurs années.
Wow,
J'ai
ben
un
là,
audace et puis j'aime ça.
as-tu une boutique en ligne de choses
Ben
comme
non, on me le reproche, je vends bouche à oreille pour l'instant, mais c'est dans le projet, c'est dans le
ben,
projet, promis, promis,
bon,
promis.
là, première chose, c'est que tu vas en apporter au congrès.
Yes, ok, oh
Hein?
my God.
Prépare une batch, là, parce que tu vas en vendre au congrès, c'est certain. Fait qu'apporte-en au congrès.
Ok.
OK. Est-ce que tu as un regret, quelque chose que tu aurais fait autrement si tu avais su dans ta carrière?
Oui et non. Oui, parce que ça me semblait faire du sens à ce moment-là. Non, parce que j'étais pas outillée. Donc, j'ai rencontré Montserrat Caballé une fois, un opéra à Zurich. Et puis, à la fin, je lui ai dit, si je devais travailler avec quelqu'un, ce serait qui? Elle m'a donné le nom d'une grande prof et je me suis dit, ma voix, elle tiendra pas 2 secondes. Et c'est vrai, à l'époque, elle n'aurait pas tenu. Cette femme travaillait déjà avec un certain niveau vocal. Je n'y étais absolument pas. Donc oui, ça m'aurait plu d'avoir cette opportunité-là, puisque Montserrat Caballé elle-même me conduisait, mais elle ne savait pas ce que j'allais. Mais en même temps, quand j'ai fait le bilan, je me suis dit non, je ne peux pas tenir la route là physiquement et je n'ai pas encore chanté assez, je n'ai pas encore déployé ma voix sur des grandes scènes, puisque c'est aussi ça l'idée en opéra, on chante sans micro. Donc il faut développer une puissance à toute épreuve, une robustesse que je n'avais pas. Donc, j'aurais pu faire
Regret.
différemment, mais voilà, c'est beaucoup de choses m'ont été données. J'ai eu beaucoup de choses qui m'ont souri, mais que j'étais pas en mesure de recevoir. Mais je les voyais. Je voyais que c'était l'opportunité. Mais non, par rapport à où j'étais, mon environnement, qui j'étais à ce moment-là, c'était pas possible. Ça faisait pas, ça marchait pas. Ouais.
Pour nos auditeurs qui chantent, est-ce que tu aurais un super truc génial du métier?
Ouais. Un petit truc, parce qu'on ne le connaît pas très bien, c'est d'ouvrir la bouche et d'essayer d'avaler sans fermer la bouche.
Ben voyons.
Voilà. comme si on avalait notre salive. Ce que ça fait une grosse, une belle pression intéressante sur le larynx et après, ça fait pouf, ça l'ouvre. Donc, on fait ça de 3 à 9 fois et puis ça vient ouvrir l'arrière-gorge en quelques secondes. Ça, c'est vraiment un petit truc intéressant. Et dans ce mouvement-là d'ouverture du fond de la gorge, les sinus se débouchent quand on a des débuts de sinusite ou on a le nez plein, des allergies. C'est vraiment un exercice intéressant pour cette zone-là. Voilà.
Wow, je le connaissais pas, je l'ajoute à ma liste.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Déglutir sans fermer la bouche.
Mon Dieu, c'est tout un projet.
Ouais, vraiment.
Bon, hey, parlons du congrès. Moi, je suis assez contente que tu aies accepté mon invitation parce que j'observais un peu ce que tu faisais. Puis quand tu m'as parlé d'opéra, j'ai fait, OK, s'il y a quelqu'un qui peut me faire aimer l'opéra, c'est Élisée. Donc, toi, tu vas donner l'atelier qui s'appelle L'opéra, un truc de snob, avec une question, bien sûr. Pourquoi tu as choisi ça? Puis dis-moi, ça va être quoi un peu ton atelier?
Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que si tu fais un micro-trottoir, que tu interroges les gens dans la rue en leur disant c'est quoi l'opéra, naturellement, les gens vont te faire ah, c'est des gens qui font oh! Ils vont te le faire.
Ah
Donc,
oui.
ça veut dire que même dans l'inconscient collectif, il y a une idée, même une caricaturale de c'est quoi un chanteur ou une chanteuse d'opéra. OK? Donc, ça me plaît toujours. D'aider les gens à se rendre compte qu'ils savent quelque part ce que c'est l'opéra. La deuxième chose, c'est que en ayant été moi-même confrontée, entre guillemets, à ce milieu-là, je me suis rendu compte que ça prenait quand même un petit peu d'argent là pour aller faire les auditions, se déplacer, vivre à l'hôtel, avoir les robes de rechange, même si ta robe est chipette, mais il t'en faut deux, trois, et puis... les auditions, ça coûte cher, faut s'inscrire, faut... c'est plein de choses comme ça où si derrière t'assures pas, ben c'est pas si simple que ça. Deuxième chose, une place d'opéra à l'heure actuelle vaut en moyenne, on va dire, 125 $. C'est pas si cher que ça par rapport à une place pour aller voir Stromae. Hein? C'est une histoire d'intérêt. Mes deux enfants sont allés voir Stromae et puis ça coûtait bien plus cher que moi quand je vais à l'opéra. Donc, c'est même plus à l'heure actuelle une histoire d'argent, mais snob parce que il y a un protocole, il y a un décorum, il y a une façon de. Et si on va en Italie à l'heure actuelle, c'est très rare, par exemple, de voir des gens aller à l'opéra et habiller en jean.
Oui, ben oui.
Ici, ça se fait plus souvent parce que c'est comme si on veut bypasser ou on ne connaît pas les us et coutume de l'opéra, mais aussi on veut bypasser, puis on se dit pourquoi on s'habillerait bien. Mais ce qui devient intéressant pour l'expérience, c'est d'essayer de s'habiller bien quand on va à l'opéra, même pour la première fois, parce que ça nous met dans une énergie de recevoir le beau qui va nous être offert par les gens sur scène. Il y a ça qui est intéressant. Il y a la machinerie, les décos, les costumes. Et puis ça, on se dit, waouh, il y a des moyens dans cet art-là, mais ce sont des moyens qui sont là pour nous éblouir complètement. Donc oui, un truc de snob, si on veut le regarder comme ça, mais un truc complètement accessible parce que les places les moins chères, on entend super bien à l'Opéra de Montréal, et puis on peut y aller pour 75 $, et puis des fois, il y a des actions là. Il y a eu l'OSM cet hiver, c'était gratuit.
Ah oui.
Et j'ai passé le mot de passe sur mes réseaux pour tous ceux qui voulaient y aller. Il y en a qui sont allés voir du Malherbe 2 ou 3 fois à 5 ou 8, 10 personnes. Il y a toujours la possibilité, mais c'est s'ouvrir à aller voir qu'est-ce qui est intéressant. Et moi, ce qui m'a plu, je ne viens pas d'un milieu forcément prout-prout ma chère. Je ne viens pas de ce milieu-là, mais l'idée de s'habiller pour aller dans un endroit différent, moi ça me plaît. La petite fille qui est en moi, elle dit waouh, il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se passer. L'idée de sortir ses beaux souliers, je me dis waouh, c'est pas une journée plate, c'est pas une journée comme les autres. Donc il y a aussi tout ça à s'habituer. Puis moi, je suis une grande passionnée de beauté. Mon premier mot de valeur, c'est la beauté. Je dirais pas comme dans une certaine série, je serais prête à tuer pour la beauté, mais.
Mais
Mais voilà, et on retrouve tout ça, et je pense que quand on a un regard à juger l'opéra, les gens qui vont à l'opéra, c'est que quelque part, on s'autorise pas soi-même à vivre ce grand et ce beau qui n'est pas forcément une question d'argent, mais une question d'effort de bonne volonté. De se dire, ah, j'ai peut-être cette petite robe que j'ai pas mise depuis longtemps et puis ce soir, je vais à l'opéra. C'est s'autoriser peut-être un petit cocktail avant et puis se dire, ok, c'est ma folie de l'année. C'est aussi s'autoriser à se dire, tiens, je vais me greffer un groupe de gens passionnés d'opéra. Je pense que le regard qu'on porte de jugement, c'est parce que ça nous renvoie à notre difficulté à nous autoriser un truc qui est un peu brillant, des fois un peu clinquant, un peu exagéré, de voir des gens qui se tuent sur scène, des gens qui jouent la... Mais c'est tout ça qu'on a en soi, finalement.
Oui,
Sauf que à l'opéra, on se permet de le montrer sur scène. Et puis on se tue, et puis on se trompe, et puis c'est plein de trucs qu'on n'a pas forcément besoin de faire dans la vie de tous les jours.
non.
Et c'est ça qui est merveilleux. C'est vraiment ça qui est merveilleux. Moi, j'ai une photo qui m'accompagne, c'est mon fond d'écran, une chanteuse du Met, et puis elle est là, la main sur le cœur, la tête penchée, elle a des lèvres, c'est une bouche en cœur, et là elle dit, Tell him that I adore him, that he should be true to me alone. Qui devrait m'être fidèle à moi seulement. Et puis là, elle est en train de chanter. C'est d'un désespoir. Mais c'est extraordinaire. Moi, c'est vraiment, permets-toi le drame de ta vie. Vis ta vie comme si c'était un opéra. Vis avec grandeur. Vis avec exagération dans tout ce que tu fais, finalement. Aime démesurément. Et puis souffre à en crever, mais aime de nouveau encore. Et puis ne te retiens pas. Et puis n'hésite pas toujours quand tu es au supermarché. Oui, mais il y a ça. Au lieu d'en acheter 20 000 de ça, prends-toi des bonnes crevettes une fois dans l'année, mais tu auras un souvenir éblouissant. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, ça touche un art de vivre quand je regarde ce qui se passe sur l'opéra. J'en prends de la graine parce que je préfère me dire peu, mais très, très beau. Et puis faire avec ce qu'on a comme moyen, mais s'élever à cette beauté, s'élever à l'élégance, s'élever au raffinement. Moi, l'opéra m'enseigne tout ça.
Donc, mettons dans notre atelier de conférence que tu vas donner, on va vivre l'exubérance, là.
Absolument, on va se tenir comme ça, on va respirer comme ça, on va ouvrir la bouche comme ça, on va faire des sons comme ça, et puis on va voir comment c'est dans mon corps quand ça s'ouvre, quand je me permets d'être une marquise, quand je me permets d'être l'empereur, quand je me permets d'être le roi des rois, quand je me permets d'être la queen des queens. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps déjà et qu'est-ce que ça me donne comme envie d'action dans tout ce que je fais dans le... Si je fais ma vaisselle en me disant c'est la plus belle des vaisselles et puis je suis en train de tourner, puis waouh, mais ma vaisselle elle se fait beaucoup plus vite et c'est tellement plus le fun.
J'avoue, c'est
Mais
cool.
oui,
Ah,
et
j'ai
puis balayer en dansant, et puis ton balai, c'est ton prince charmant, et puis waouh, tu passes ta serpillière, et puis ta mope là, et puis c'est le bonheur total, et mets de l'opéra fort. Moi, je me réveille avec certains sons classiques, les dieux de la guerre, là par exemple, dans le Requiem de Giuseppe Verdi, il y a la colère des dieux, c'est le Dies Irae, et quand les dieux ils sortent du ciel, là, il y a 17 trompettes là-dedans, tu peux pas dormir, tu peux pas procrastiner quand tu entends ça, c'est 30 secondes et ça te met dans un... Parce qu'il y a un effet incroyable sur tes surrénales, sur ton taux d'énergie, etc. Donc c'est ça que j'aime dans l'opéra, c'est
Oh
ça.
mon Dieu,
Donc si on
ça.
dit que c'est une histoire de snob, je veux tout ce snobisme-là dans ma vie au quotidien, et j'ai envie de le partager avec les gens. Puis j'ai envie que tout le monde se sente un peu snob, que tout le monde ait un petit brin d'arrogance, un brin de folie, un brin de démesure. C'est ça mon projet. Sinon, ça me sert à quoi de chanter? Ça me sert à quoi de l'enseigner?
Ça va être vraiment, ça va être fou, Red. J'ai tellement hâte de le vivre dans ton atelier parce que ça m'intrigue beaucoup. J'ai bien hâte de voir aussi, moi, comment je vais sortir les sons, comment je vais utiliser la posture, tout ça, parce que c'est toutes des choses que j'ai moins fait.
Ouais.
C'est vraiment, je suis
Yeah.
vraiment curieuse. J'ai hâte. Fait que on achève l'entrevue déjà, ben oui. Dis-nous, parce que là, il y a les gens, je suis sûre qu'il y a ceux qui écoutent, ils ont vraiment hâte de te retrouver, de te suivre. Donc, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux ou comme coach ou dis-nous donc tes services?
Alors moi, je suis Élisée Daniel, coach vocal sur Facebook, la même chose sur Instagram. Il y a une classe de chant virtuel où les inscriptions sont à l'année longue. On s'inscrit pour 4 mois, on renouvelle autant de fois qu'on veut. C'est une classe de chant virtuel qui s'appelle Trace ta voix. Là, c'est on travaille en groupe. Je donne des devoirs chaque semaine. Les gens s'enregistrent. Le coaching est illimité dans le sens où si tu me postes quelque chose, tu m'envoies un petit audio. Je vais prendre le temps de te répondre, le temps de t'orienter. On va choisir ensemble le répertoire. On va choisir du répertoire progressif dans le style que tu aimes. Et puis de temps en temps, je vais te faire sortir de ta zone de confort, un truc que tu n'aurais pas pensé. Donc c'est très ludique. On apprend beaucoup. Puis l'idée, c'est que les gens s'épanouissent, qu'il y ait de la bienveillance dans ce groupe, que les gens soient, qu'ils soient timides ou pas timides, mais ils ont une voix. Et puis je veux que chaque personne comprenne que sa voix compte dans ce petit groupe-là, mais aussi dans le grand groupe de la société, de l'humanité. Donc ça, c'est Trace ta voix. C'est vraiment un beau projet. Écris-la ta voix. Et puis ouvre-la, permets-toi. Donc Trace ta voix, c'est le seul endroit où on ne te dira jamais de la fermer. Et c'est le seul endroit où on te dira de l'ouvrir bien grande. Hein? Ça, c'est Trace ta voix. Et puis, j'ai des programmes qui sont très différents. Par exemple, chant chakra et bonne vibration, on y chante, mais l'accent n'est pas mis sur la technique, mais sur vraiment les blessures qui sont venues te paralyser dans ta communication, dans tes interactions avec les gens, les mots que tu t'es tellement répétés, que ton oreille y a cru, que ta gorge y a cru, que ton âme y a cru, et que du coup, tu t'autorises plus à vivre la vie, ta vie de rêve, ta vie, la vie que tu veux vraiment vivre. Donc ça, c'est chant chakra et bonne vibration. Et j'appelle ça vraiment chant chakra. On fait une descente dans les chakras, dans l'énergie puissante des centres énergétiques qu'on possède. Et ensuite, on travaille des sons et des chants de guérison. Donc j'ai écrit des petites chansons très courtes qu'on reprend en boucle pour aller créer la transe à l'intérieur. On travaille sur nos blessures, on travaille sur notre sexualité, sur la sexualité de nos grands-mères, de nos aïeuls. On travaille sur 7 générations avant nous. C'est vraiment un travail de guérison qui passe par la voix. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans Chant Chakra et Bonne Vibration. Puis il y a plein d'autres programmes pour des gens qui voudraient aller encore plus loin. Ça touche la voix, c'est connexe à la voix, mais c'est la pleine conscience de qui on est. C'est sûr que la voix mène à tout ça.
Wow! De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la
Oui.
description de l'épisode. Puis là, les gens, ils vont pouvoir aller voir qu'est-ce que tu fais.
Super.
Ça a été une entrevue super intéressante. Moi, j'ai ça
Merci.
fait juste me donner hâte au congrès de vivre ton atelier. Puis j'espère que les gens, ça va justement leur donner envie de découvrir tout ce monde-là de l'opéra que peut-être qu'on connaît moins. Hein?
Ouais,
On a la
tout à fait.
meilleure pour nous le démystifier maintenant.
Yes. Ah ouais, là, c'est ma passion. On va jouer avec ça et puis surtout sentir que tu sais, il y a quand même des jeunes qui entendent une fois un chanteur d'opéra et ça les marque. Moi, j'ai entendu l'air des clochettes une fois et j'avais 7 ans, c'était en Martinique. Puis c'est resté dans ma tête. J'ai retrouvé cet air 20 ans plus tard
Ah
en me disant, My God, c'est ce que l'enfant avait entendu. Et c'était à l'église du coin, ils ont dit, il y a une diva d'opéra qui passe. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai vécu 20 ans sans savoir. Mais j'entendais dans ma tête et ça chantait, ça chantait. Et j'ai fini par retrouver ça.
Oh.
Donc on peut, la musique, le chant, la voix, ça peut nous emmener à une destinée assez incroyable. Moi, peu importe où je vais, j'ai toujours une chanson dans mon cœur. Et du coup, je suis profondément heureuse. Puis je souhaite que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui gardent une mélodie dans le cœur, gardent une chanson, un air de grand-mère, un air de maman, une berceuse, mais il faut que ça chante dans notre cœur, il faut que ça chante dans nos vies.
Wow! Mais un énorme merci pour ta présence et ton temps. Puis,
Merci à toi.
ah, j'ai hâte. Fait que nous, on va se voir en vrai au congrès. Puis, les gens
Ouais,
vont
tellement. Ouh!
donc, venez au
Merci, Lynn.
congrès. Ben, ça me
Merci
fait
de ton
plaisir.
accueil. C'était vraiment passionnant. J'adore faire partie de ta team de ce congrès-là. Puis j'adore te connaître. Vraiment, vraiment.
Ça va être
Merci.
le fun. Merci!
Au plaisir.
Merci pour ton écoute. Si tu veux supporter l'émission, va sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse-moi un témoignage. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast et quel impact ça a sur ta vie musicale. Tu peux même en profiter pour me laisser un beau 5 étoiles. Un énorme merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est vraiment des gens comme toi qui font que l'émission continue. On se rejase dans le prochain épisode.
C'est vrai, là!